Vers les années 6000 avant notre ère, le littoral méditerranéen de la France actuelle a été le théâtre d'une véritable révolution culturelle et sociale dont les idées provenaient sans doute des pays de la Méditerranée orientale. La mer a-t-elle facilité les communications entre des populations géographiquement très éloignées? Il est permis de le penser au regard des nombreuses découvertes archéologiques récentes qui attestent l'existence d'un cabotage et d'une navigation préhistorique déjà très développée. Vers les années 6000, donc, dans le midi méditerranéen de la France, un nouveau mode de vie pénètre peu à peu les terres, jusque-là peuplées de chasseurs nomades. Ce nouveau mode de vie, c'est le néolithique. Avec lui, l'agriculture et l'élevage apparaissent. Les premiers villages sédentaires sont édifiés. Ces nouvelles pratiques amèneront la disparition des grandes forêts traditionnelles et des changements irréversibles dans l'évolution des paysages. Vers la fin du néolithique, avec l'accroissement démographique, apparaissent les innombrables dolmens qui parsèment tout le territoire de la France, en particulier la Bretagne et le Midi. Mais pour le préhistorien qui s'intéresse à ce moment privilégié de l'histoire de l'humanité, l'indice archéologique le plus révélateur, le témoignage le plus important, c'est la poterie. Elle sert à recueillir l'eau dans les grottes et les avennes, mais aussi à conserver le grain que l'on sait désormais cultiver. Elle protégera la fine farine blanche moulue avec les outils de pierre. Elle permettra de préparer des nourritures nouvelles. Elle présentera les offrandes rituelles déposées dans les sépultures. Mais plus que les vases entiers, d'ailleurs très rares, ce sont les innombrables tessons retrouvés par les fouilleurs qui constituent la véritable documentation du néolithique. L'étude des surfaces permet de classer les tessons. Décoration à la coquille marine, décoration à la pointe d'os ou de silex, tesson avec anse et stries parallèles, tesson décoré au peigne. Les procédés, les gestes du potier sont inscrits dans le moindre fragment et toutes leurs traces sont révélatrices. Ici, par exemple, des stries de lissage ou de polissage indiquent une étape importante dans la confection de la poterie. Aujourd'hui, le spécialiste va plus loin encore. Il voudra retrouver les moindres éléments constituants de la céramique. Les dégraissants sont ajoutés à l'argile pour la durcir. Leur identification permettra de classer des fragments qui ne portaient aucun indice de surface. Pour cela, une pastille est creusée dans le tesson, puis observée à la loupe. Une pâte grise ayant un dégraissant à fort calibre est caractéristique des premières poteries du néolithique ancien. Une pâte rouge et des grains de grosseur différentes se voient généralement dans la production de la deuxième phase du néolithique ancien. Une pâte bleue, où les grains sont bien classés, indique une céramique d'époque chasséenne. Et une autre pâte grise encore montre des groupements de dégraissants fréquents à l'époque ferrière. Chaque poterie est le résultat d'une succession de procédés techniques que l'homme néolithique a découvert et a su exploiter. Et aujourd'hui, pour bien comprendre la poterie, le mieux est aussi de savoir la faire. Nous voyons ici à droite un vase préhistorique, à gauche sa copie effectuée avec les méthodes d'il y a plus de 5000 ans. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a avec la poterie production d'un objet vraiment artificiel. Redécouvrir l'évolution des méthodes, la variation des gestes, est le moyen le plus sûr pour connaître le cheminement de la pensée du potier. Le matériau de base de la céramique est déjà une combinaison, un mélange voulu et ordonné. L'argile est abondante dans la nature, on la rencontre dans son état malléable, sur le sol des grottes que parcouraient encore les hommes du néolithique. Le dégraissant joue, lui, un rôle important dans la solidité du récipient. Ici, ce sera de la calcite recueillie dans la grotte. Mais elle pourrait être remplacée par une pierre quelconque, une coquille, du sable ou de l'os. L'artisan préhistorique suivait sans doute, dans la préparation des céramiques, des habitudes transmises oralement, de potier à potier. Ces habitudes se manifestent, par exemple, dans le choix de la taille du dégraissant, qui pourrait être à volonté grain, granule ou poudre. Le préhistorien pourra mettre en évidence un changement de ses habitudes, de ses traditions, lorsqu'il retrouvera des variations dans la sélection des grosseurs de grains, des variations dans la proportion des mélanges de l'argile et du dégraissant. Ce sera chaque fois une nouvelle étape du développement culturel du néolithique. Pour la confection d'une poterie, plusieurs méthodes ont été employées au cours des temps préhistoriques. La plus ancienne semble avoir été celle du montage au colombin. C'est aussi la plus simple. Elle a été mise en pratique pendant plusieurs millénaires sur les différents continents et elle est toujours utilisée par les dernières populations traditionnelles qui fabriquent encore leur poterie. Le préhistorien qui étudie les tessons fossiles provenant de pièces montées au colombin observe souvent que la spirale d'enroulement qui constitue le fond a une épaisseur plus forte que les bords du vase. L'assise doit être solide, les parties supérieures se développeront en s'affinant. L'étagement de plusieurs assises de colombins, pressées les uns sur les autres, raccordées au moyen d'une estèque d'os, permet de monter le vase. Les fouilleurs retrouveront des tessons brisés selon des lignes de fracture qui suivent l'enroulement des colombins. À travers le temps et jusque dans ces cassures, la céramique garde la marque des gestes de son potier. Le plaisir du contact avec la matière souple et malléable a peut-être été l'élément conducteur du geste faisant naître la forme. Aussi n'est-il pas étonnant de retrouver dans nombre de civilisations traditionnelles le rôle mythologique d'un potier divin façonnant le monde de ses doigts. La finition du montage nécessite une attention particulière pour l'obtention de la lèvre ou pour les lissages de la surface. La forme des appendices est un sujet d'invention continuelle, comme leur système d'application ou de fixation. Ici, de simples incisions, ailleurs un trou fait dans la paroi, ou bien un rivetage après perforation. Là encore, l'habileté du potier a créé une technique qu'un autre potier reprendra. Le temps en perpétuera la tradition. Puis vient le moment important de la décoration. Une coquille de cardium est appliquée sur le vase malléable avant le séchage. Les céramiques décorées à la coquille de cardium sont les plus anciennes connues le long des côtes méditerranéennes. Elles déterminent une civilisation originale, la civilisation cardiale, entre 6000 et 4500 avant notre ère. Grâce à un simple coquillage, la surface s'animera d'une infinité de motifs, à la seule inspiration de la main qui le guide. Voici un bel exemple de céramique cardiale reconstituée avec des techniques vraisemblablement très proches de celles des hommes du néolithique. Le montage et la décoration ont nécessité environ 4 heures de travail. Après le séchage, le traitement de la surface n'est pas fait uniquement dans un but esthétique. Il faut diminuer la porosité qui existe toujours dans une poterie et qui subsistera même après une bonne cuisson. Le polissage au galet peut compléter un simple lissage à l'estec de bois ou un lustrage à la peau de cuir. On en retrouve souvent la trace sur les tessons anciens. « Au cours des temps, d'autres procédés de montage ont été mis au point, toujours avec les mêmes matériaux de base. La technique de l'estampage est apparue dès le 4e millénaire avant notre ère. Conduite à partir d'une galette de pâte plaquée dans un moule, elle amène la création de formes nouvelles. La céramique est avant tout utilitaire, et comme tout instrument, elle offre une véritable expression de la pensée préhistorique. Les objets de bois, de cuir, de vannerie, de tissage, cette multitude de formes, de couleurs, de représentations abstraites, sont irrémédiablement perdus. La céramique, en raison de sa solidité relative, reste le témoignage le plus frappant de la personnalité de l'homme néolithique. La reconstitution expérimentale ne donne pas les réponses à toutes les questions concernant la céramique préhistorique. Elle permet néanmoins de pénétrer concrètement dans l'univers du potier. Les femmes, comme on l'a souvent prétendu, jouaient-elles un rôle particulier pour créer les céramiques? Les vases servaient-ils de support à des échanges entre les communautés? Avaient-ils un rôle dans l'accomplissement des rites religieux? Quant à l'apparition de véritables ateliers, c'est dans notre pays un phénomène beaucoup plus récent, contemporain de l'âge du bronze. Il semble bien que le potier néolithique réalisait les récipients au fur et à mesure de ses besoins. Après un temps de séchage, le dernier problème est celui de la cuisson. Un foyer très simple peut être reconstitué avec un fagot de branchage recouvrant les pots. Utilisé aux périodes les plus anciennes, ce foyer rudimentaire a été rapidement abandonné, car les recherches sur la domestication du feu ont été nécessaires pour combattre les effets néfastes des brusques variations de température et pour obtenir une élévation de chaleur progressive et uniforme. La séparation entre la flamme vive et l'objet à cuire, telle qu'elle existe dans le four avec sol et alandier, ne sera pas découverte par l'homme néolithique. C'est un acquis de l'âge du bronze. Ici, la cuisson a atteint 550 degrés environ. Elle a été très primitive, ce qui s'exprime par des couleurs différentes sur un même vase. La couleur est un important témoignage des techniques de cuisson. Ce vase avait été cassé avant l'épreuve du feu, et chaque tesson cuit séparément et différemment. Il a ensuite été reconstitué. Les tessons les plus noirs ont cuit lentement, en milieu réducteur, dans un feu très étouffé, avec peu d'aération. Les teintes rouges, par contre, sont obtenues par une cuisson plus oxydante, plus rapide, à la flamme libre, dans un foyer bien aéré. Ces deux vases ont été réalisés avec la même pâte, mais cuits de façon différente. Avec ses couleurs, ses surfaces, ses décors, ses formes, ses matières, la céramique est bien le fossile directeur du néolithique. Elle permet de connaître les phases essentielles de son évolution chronologique, de son emprise démographique. Au cours du néolithique ancien, de 6000 à 4500 avant notre ère, seules les côtes méditerranéennes connaissent la céramique. Elle est déjà parfaite dans ses formes, dans sa cuisson. C'est l'époque des décors impressionnés, à la coquille de Cardium notamment. Puis, entre 4500 et 3500, les autres régions de la France découvrent le néolithique avec un décalage chronologique notable sur le midi méditerranéen. Les variations locales dans les formes et les décors sont importantes. Entre 3800 et 2800, la culture chasséenne s'implante sur la presque totalité de la France. Phénomène remarquable, les groupes de population ont presque tous une céramique assez semblable. Elles présentent des galbes carénées ou à épaulement, des appendices de préhension ou de suspension très originaux. Les motifs géométriques gravés après la cuisson constituent la caractéristique du décor chasséen. Entre 2800 et 2200, au cours du néolithique final, l'unité chasséenne se disloque, remplacée par l'éclosion d'une multitude de cultures originales montrant une extension démographique de plus en plus importante. C'est dans ce cadre que de nouvelles idées, de nouveaux procédés techniques vont progressivement apparaître. La domestication du feu, nécessitée par l'amélioration des techniques de cuisson de la poterie, conduira à une maîtrise progressive de l'élévation de la température des fours, favorisant la découverte de la métallurgie. Ainsi, la poterie, principale invention du néolithique, est-elle à la base même du monde moderne. Elle est le premier exemple de transformation de l'état de matière sous l'action du feu.